France Inter.
Aujourd'hui, Capitalisme, une histoire de la Terre, épisode 7, raconté par
Timothée Parik, chercheur en économie.
France Inter, La Terre au carré, Mathieu Vidard.
Ceux qui rêvent d'un retour en arrière, d'un monde en décroissance, sont des ignorants qui n'ont jamais eu faim. La pauvreté a été le lot d'une très grande majorité des populations mondiales, tant que la croissance restait modeste, sinon inexistante. Les pays occidentaux se sont développés quand la liberté a débridé la créativité et permis le progrès alimentaire aussi bien que technique. La grande pauvreté est passée de plus de 40% de la population mondiale dans les années 1980 à moins de 10% fin des années 2010, grâce à la croissance qu'a suscité l'ouverture du commerce au niveau international. Les décroissants voudraient fermer nos frontières, ce qui empêcherait l'importation de produits meilleur marché ou pour le moins en rehausserait le prix, ce qui nuirait à l'échange des talents et des idées, ce qui réduirait l'émulation de tous avec tous pour la cantonner à l'hexagone. Les consommateurs trouveraient moins de produits sur le marché et ils seraient plus chers. Les décroissants veulent moins de pollution. Le progrès consiste en effet à croître en luttant sans cesse contre les méfaits de la croissance. C'est ainsi que le fog londonien dû au charbon qui faisait chaque année des milliers de morts, a été combattu. Toute croissance génère des effets pervers et les moyens nouveaux de les éradiquer à terme. Mais l'excès de réglementation et l'interdiction de trop nombreux produits peut tuer les productions plutôt que de les rendre plus propres. Ainsi, l'offensive contre les produits chimiques dans l'agriculture condamnerait-elle à terme de nombreuses exploitations. Les décroissants veulent moins d'enfants, pas de famille, une planète vide est réservée à quelques happy few, mais une planète vide sera une planète pauvre, car la plus grande richesse, c'est l'homme. Moins d'hommes, c'est moins de richesse, parce que moins d'intelligence, moins de capacité de travailler, moins de créativité, d'innovation, de concurrence, de différence, de vie. La décroissance exprime une fatigue qui accroît la lassitude du monde. C'est une faiblesse mortelle pour les civilisations qui profitera à d'autres civilisations plus fortes, parce que la vie et l'envie de vivre reprennent toujours leurs droits, mais pas toujours au profit des mêmes. Alors il faut sans doute lutter jusqu'au bout, plutôt que d'accepter à notre tour, par notre propre lassitude, de vivre sous le joug des décroissants verts, bruns ou rouges. Il faut batailler pour faire vivre et renaître sans cesse notre civilisation de liberté, qui est aussi celle de la croissance raisonnée, pour combattre les pauvretés du corps comme celle de l'esprit et du cœur. Ce texte, intitulé « La décroissance ou le chemin de la pauvreté », a été publié en mai 2020 par Jean-Philippe Delsol, le président de l'IREF, l'Institut de recherche économique et fiscale. Bonjour Timothée Parik.
Bonjour.
C'est avec vous aujourd'hui que nous refermons cette grande série que nous avons imaginée cette année avec Lucie Sarfati pour parler des liens entre le capitalisme et l'histoire environnementale de notre planète. Vous êtes un décroissant de quelle couleur pour répondre à Jean-Philippe Delsol ?
Alors moi j'aime pas tellement l'appellation de décroissant déjà. De la même manière que pour qu'il y ait des décroissants, il faudrait qu'il y ait aussi des croissants. On parle de personne quand on appelle quelqu'un un croissant ou un décroissant. Moi, je suis un chercheur en économie, plus précisément en économie écologique. J'ai écrit une thèse sur la décroissance. Et la décroissance est un phénomène qu'on peut étudier de manière objective. C'est aussi quelque chose qu'on peut appeler de ses voeux. C'est un projet de société auquel on peut croire. Et là, c'est vrai que ça peut devenir un prisme, une vision du monde, une idéologie, pas forcément négative, un souhait, une utopie. Mais je me considère plus comme un scientifique des transitions économiques plutôt qu'un décroissant en tant que tel.
Ouais. Quand même, pour répondre à Jean-Philippe Delsol, parce qu'il est intéressant ce texte, hein, il dit que ce que beaucoup d'ailleurs pensent au sujet de la décroissance, nombreux sont les promoteurs de la croissance qui affirment qu'abandonner précisément la croissance nous emmènerait tout droit sur le chemin de la pauvreté. Qu'est-ce que vous lui répondez ?
Oui,
bah
c'est exceptionnel parce que j'ai jamais vu autant d'erreurs concentrées dans un si petit laps de temps. Et donc, j'ai mon cerveau, je pense, a sursauté et s'est redémarré un peu comme un ordinateur en surchauffe, peut-être 18 fois depuis le début de la lecture du texte. Et je pense que mes collègues spécialistes de l'éradication de la pauvreté, à commencer par Olivier de Schutter, le rapporteur spécial spécialiste de l'éradication de la pauvreté aux Nations Unies, qui vient de publier un rapport justement qui s'appelle « Éradiquer la pauvreté ». Au-delà de la croissance, un rapport qui vient faire une synthèse en fait de toutes les études qu'on connaît sur les mécanismes de la pauvreté et qui
après, non seulement un rapport théorique, mais aussi pratique, vient apporter la conclusion que non, la croissance n'est pas un remède miracle à l'éradication de la pauvreté, ce qu'on devrait comprendre assez facilement, vu que la croissance, c'est l'augmentation du PIB, et que le PIB, c'est un chiffre sur un tableau Excel, alors que la pauvreté, c'est une déprivation matérielle et sociale. Et donc, les gens qui travaillent véritablement sur la pauvreté savent bien que pour éradiquer la pauvreté, bah, il faut faire des choses beaucoup plus précises que juste appuyer sur le pseudo bouton magique du PIB.
Ouais, mais qu'est-ce que vous lui répondez à M. Del Sol ? Parce qu'il présente quand même les décroissants, alors je ne sais pas comment vous les appelez exactement, hein, comme de tristes cires quand même, qui n'ont envie de rien, de ne pas consommer, de ne pas avoir de famille. Qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre ?
Et je trouve ça assez curieux parce que la décroissance, elle applique la même logique que ce qu'on fait en économie de la prévention. Donc, par exemple, la même logique de prendre le temps de changer un petit peu la qualité de ce qu'on mange pour éviter l'apparition d'un problème de santé qui pourrait avoir des conséquences désastreuses sur la qualité de vie. Alors oui, c'est vrai que faire un régime et se dire « bah tiens, je vais peut-être manger un peu moins de choses salées, sucrées ».
C'est pas drôle.
C'est pas drôle, on le fait pas par plaisir, mais on se rend compte quand même que les coûts à court terme sont inférieurs aux bénéfices à long terme. Et la décroissance, c'est un petit peu pareil. On se rend compte que dans le court terme, il va y avoir une certaine transformation quantitative et qualitative
qui
de la manière...
Qui va pas être très agréable, donc c'est ce que vous nous laissez entendre aussi.
Alors, je pense que ça serait mentir de se dire que ça va être que de la joie. Une transformation économique, ça demande toujours un certain effort. Il y a ce qu'on appelle les co-bénéfices sociaux de la transition. Donc, par exemple, manger moins de bœuf, par exemple. C'est un très beau symbole parce que le bœuf est l'un des produits les plus carbonés et même écologiquement intenses de notre alimentation, mais c'est aussi quelque chose que l'on surconsomme, donc qui vient dégrader notre santé. Donc là, on pourrait dire que c'est vraiment un win-win. Et donc de se dire, si en consommant moins et en produisant moins aujourd'hui, on arrive à éviter l'émergence de coûts écologiques énormes qui vont avoir des conséquences sociales délétères, en fait, on s'enrichit à travers un ralentissement de notre économie.
L'idée, c'est de nous convaincre hein, pendant cette émission, Timothée Parrick, puisqu'on parle avec vous, évidemment. Alors, vous appelez ça post-croissance aussi, hein, c'est aussi l'objet de cette série, c'est qu'est-ce qui peut venir, effectivement, après cette croissance que nous avons décrite pendant tous ces épisodes. Vous êtes après Hélène Torgemann, le deuxième économiste, d'ailleurs, que nous recevons dans cette série. Pourquoi, d'ailleurs, est-ce qu'il faut convoquer l'économie pour faire le récit du capitalisme et de son histoire environnementale en particulier ?
C'est primordial pour... Une raison qui est un petit peu bizarre, parce que c'est vrai que les personnes les plus à même d'étudier en fait, l'économie sur le temps long, c'est les anthropologues, des historiens, même des sociologues. En fait, là, on a une véritable perception, une littérature beaucoup plus riche sur l'évolution d'un système économique. Mais aujourd'hui, l'économie, on est dans une société économicisée, dans le sens où on attribue une importance folle à cette chose que l'on appelle l'économie. Alors c'est un petit peu irrationnel et je pense que les anthropologues du futur, quand ils regarderont notre société aujourd'hui, ils diront bon, c'est un petit peu bizarre, vous avez porté presque, là, vous aviez comme religion l'économie d'une certaine manière. Mais donc l'économie devient un petit peu le langage, la clé de décryptage d'une réalité sociale qui est en fait beaucoup plus large que juste le PIB, l'inflation, le marché du travail. Mais on a besoin de mettre les mains dans le cambouis pour vraiment comprendre un petit peu ce qui se cache derrière ces termes.
Mais ça veut dire que les crises écologiques sont d'origine économique ?
Alors moi, c'est l'argument que je défendrais. Une crise écologique, qu'est-ce que c'est ? Ça va être lié à la surexploitation d'une ressource naturelle au niveau de l'extraction ou peut-être lié à certaines formes de pollution. Donc là, quand on prend l'économie comme un métabolisme sociétal, c'est comme ça qu'on l'appelle, soit en fait c'est un problème au niveau de ce que l'économie va venir puiser dans la nature, soit c'est un problème au niveau de ce que l'économie va venir rejeter dans la nature. Quand je dis économie, je parle vraiment de l'organisation, de la satisfaction des besoins et donc de la production, de la consommation d'une société humaine. Et en fait, ces pollutions et ces extractions, c'est toujours des histoires de volume. C'est-à-dire que si on va rejeter juste quelques grammes de CO2 dans l'atmosphère, on ne peut pas parler véritablement de pollution parce que ça ne va pas venir dérégler un équilibre biophysique. Et donc, ce qui vient créer le problème écologique, c'est la magnitude. Donc, par exemple, la croissance d'une économie qui va se mettre à couper de plus en plus d'arbres, de plus en plus d'arbres, de plus en plus d'arbres, au bout d'un moment, ça peut venir créer
un problème écologique, par exemple, un effondrement de biodiversité lié au changement des sols, lié à la déforestation.
Et donc, il y a ces limites écologiques. Et lorsque, encore une fois, Jean-Philippe Delsol, dans le texte que je le disais tout à l'heure, disait il y a toujours des solutions, finalement, pour répondre aux effets pervers de la croissance, comme l'exemple du fog londonien au moment de l'industrialisation. Il y a eu tellement de charbon que l'air était quasiment irrespirable. On voit bien qu'aujourd'hui, on respire mieux quand même et qu'on a trouvé des solutions pour lutter contre ce problème-là. Ça, on ne peut pas le dire pour tout ?
Alors, on ne peut pas le dire pour tout. C'est simple, le cadre des limites planétaires qui a été inventé en 2009 nous permet d'avoir une vision un peu exhaustive et systémique de ce qu'on appelle la soutenabilité, en gros de la santé des écosystèmes. Et ce qu'on observe quand on regarde pour un pays, mais on va généraliser dans cette catégorie des pays du Nord, donc des pays à haut revenu, c'est que le dépassement des limites planétaires s'est aggravé ces dernières 50 ans, on va dire depuis les années 70, qui marquent un petit peu la naissance de la conscience environnementale. Donc bien sûr, on a eu quelques victoires, et les technosolutionnistes sont toujours les premiers à dire « Mais regardez la couche d'ozone !» Regarde le fog londonien, classique aussi, donc des problématiques locales, et des problèmes pour lesquels il y avait des substituts économiquement faciles. Mais si on prend vraiment un indicateur très problématique, par exemple l'empreinte matérielle, l'empreinte matérielle, c'est encore plus problématique que l'empreinte carbone, parce que l'empreinte carbone, il suffit de substituer une énergie du gaz, du pétrole par des énergies renouvelables, et là on peut décarboner une partie de l'activité. Mais l'empreinte matière, on ne peut pas construire un bâtiment sans matériaux. Et donc c'est vachement difficile en fait de construire de plus en plus en utilisant de moins en moins de matériaux. Et cette empreinte matière, on la voit diminuer absolument nulle part. Et on a du mal à imaginer quelle solution. Alors bien sûr, ça fait plusieurs décennies que certains technosolutionnistes vantent les bienfaits de l'économie circulaire, du recyclage, de la réutilisation, de la modularité. Mais comme je l'avais expliqué dans ma thèse, en fait, une économie circulaire ne peut pas être en croissance.
Ouais. On verra quand même, parce qu'il y a des exemples qui montrent en ce moment quand même qu'il y a moins de construction, moins de croissance au niveau de certains secteurs. On pourra en discuter d'ailleurs pour voir si la croissance elle-même n'est pas déjà en train de freiner un petit peu. En tout cas, le principe de la croissance verte, c'est d'imaginer qu'on peut continuer de la même manière tout en préservant l'environnement et l'écologie. C'est ça,
oui,
un petit peu l'idée. Et ça, vous y croyez absolument pas.
Alors, ça s'insère dans une généalogie conceptuelle qui a commencé avec le développement durable dans les années 80, ensuite l'économie verte, le capitalisme vert. Et la croissance verte, c'est un petit peu le dernier né de ces concepts où on se dit, on va pouvoir rechercher le win-win-win, le people, planet, profit. On va pouvoir en fait améliorer la santé des écosystèmes, éradiquer la pauvreté et continuer à faire des profits, que ce soit pour des entreprises ou augmenter les revenus des individus ou le PIB des gouvernements. Moi, c'est pas une question de croyance. La croyance, ça serait un petit peu de regarder vers le futur et se dire, est-ce qu'on peut le faire? Déjà, on a 50 ans d'observation empirique, donc on peut revenir dans les années 70, voir ce que les gens disaient, ça va se verdir, et regarder, est-ce que ça a été vrai? Et ensuite, on peut observer ces tendances, c'est ce qu'on fait empiriquement en économie écologique, et les projeter dans l'avenir, c'est-à-dire, très bien, est-ce que dans les 5, 10, 15, 20 ans à venir, est-ce qu'on va voir ce verdissement de l'économie ? Aujourd'hui, nous n'avons aucune preuve empirique, ni passée, ni présente, ni même future dans les scénarios, qui puisse nous montrer de manière raisonnable en fait, une économie qui puisse continuer à croître exponentiellement et à utiliser moins de ressources naturelles.
Timothée Paris, on va justement avec vous se projeter dans le futur pour voir comment faire pour sortir justement de cette croissance avec un projet de société qui pourrait embarquer un petit peu tout le monde. Et puis, bien sûr, vous répondrez aux messages et aux questions qui arrivent sur la page de La Terre au Carré sur franceinter.fr.
La Terre au Carré, Mathieu Vidard sur France Inter.
Il était nécessaire de proposer une alternative. C'est pourquoi on a lancé ce slogan de décroissance, qui est un slogan provocateur, pour signifier la nécessité de sortir de la croissance, du développement, sortir du paradigme de la croissance et du développement, sortir de la société de croissance, inventer une alternative sociétale, c'est-à-dire un projet vraiment qui fait contraste avec la société productiviste, qui est un autre nom de la société de consommation, de la société capitaliste, pour l'appeler par son nom, parce que société fondée à la fois sur l'accumulation illimitée du capital, c'est-à-dire la croissance, et sur la consommation illimitée.
Et c'était en 2020 l'économiste Serge Latouche qui nous expliquait donc ce slogan, comme il le dit lui-même, de la décroissance. Timothée Parix, c'est avec vous que nous refermons aujourd'hui cette série en 7 épisodes, Capitalisme, une histoire de la Terre, qui sera retrouvée d'ailleurs en intégralité dès aujourd'hui en podcast sur l'application Radio France. Plutôt qu'une société de la décroissance, même si vous employez le mot d'ailleurs, hein, à la une de votre ouvrage, vous préférez parler d'une société de la post-croissance ?
Oui, dans la continuité des travaux de Serge Latouche, moi ce que j'ai fait dans les miens, c'est essayer de clarifier un petit peu ces idées en leur donnant différents termes. Donc moi j'ai différencié entre trois concepts. C'est-à-dire, l'objection de croissance, ça c'est le côté théorique critique. Mmh. Donc là Serge Latouche en parle très bien, critiquer l'hégémonie de la croissance aujourd'hui. Deuxième concept de décroissance, on va dire la stratégie de transition, parce que ça quand on parle de décroissance, on voit donc très concrètement une économie qui irait produire et consommer moins. Mmh. Et la post-croissance comme un projet de société. Donc là, Michel Lepezan, le philosophe, dirait on a à la fois le rejet, le trajet et le projet, et ça nous permet un petit peu d'articuler la pensée, et surtout qu'historiquement c'est important, vu que l'objection de croissance est née dans les années 70, la décroissance un peu plus tard, et aujourd'hui la post-croissance se développe beaucoup.
On a l'impression d'être bien dans le rejet quand même en ce moment, non ? Surtout pour vous qui prenez justement ces idées, c'est quand même une période très particulière que nous traversons là, hein, parce qu'on ne se serait même pas dit forcément la même chose il y a un an.
Ouais, c'est paradoxal parce qu'on voit l'état de santé des écosystèmes se dégrader, mais on voit aussi un intérêt qui se perd pour l'écologie, en tout cas dans les discours politiques, et un sous-investissement dans nos capacités à faire face au dérèglement biophysique. Donc c'est absolument tragique, parce qu'on devrait voir le contraire, en fait, une sorte d'accélération, et surtout un accompagnement de toutes les actrices et les acteurs qui inventent des nouvelles choses. Donc, du côté de l'activisme et du côté de la recherche, de dire, bon, voilà, si vous avez des initiatives qui pourraient nous permettre de faire baisser nos pressions environnementales, on va explorer, on va essayer. Si ça marche pas, tant pis. Si ça marche, c'est bien. Mais aujourd'hui, justement, on a cette frilosité qui est complètement irrationnelle de se dire, ah ben non, on va rester dans la salle d'attente de la transition à regarder les degrés monter.
Et justement, cette décroissance aujourd'hui, c'est juste un slogan d'écolo ou est-ce qu'il y a de la bonne science là derrière ? Est-ce que c'est suffisamment documenté aujourd'hui par des chercheurs comme vous d'ailleurs ?
Ah, oui, aujourd'hui c'est documenté. Donc le décroissance, le slogan de donc Serge Latouche était l'un des premiers à en parler en 2002. 2007, c'est la première conférence académique organisée à Paris avec la traduction du terme décroissance en degrowth en anglais. Donc à l'époque, il y avait une petite dizaine d'articles académiques publiés chaque année hein, dans des revues de lecture. Aujourd'hui, il y en a à peu près plus de 2000. Donc non, c'est une littérature. Là, la semaine prochaine, il y a la conférence internationale sur la décroissance à Oslo, en Norvège. Il y en a une toutes les ans. Il y a des journaux académiques qui se sont spécialisés et des gens comme moi qui sont à l'université, dans des départements d'économie, dans d'autres départements, à faire de la recherche.
Donc il y a de la matière pour ceux qui se donneraient la peine de bien vouloir la lire, en fait. Hein.
Moi, c'est ça qui me désole, parce que c'est vrai qu'au début des années 2000, des personnes comme Serge Latouche avaient une très bonne intuition et ont développé un argument qui était intéressant. Mais on n'avait pas tellement les preuves derrière. On ne savait pas trop, véritablement, par exemple, les études sur le découplage entre le PIB et les pressions environnementales, il n'y en avait pas tellement. Le lien entre croissance et éradication de la pauvreté aussi, c'était balbutiant. Aujourd'hui, on a énormément de chiffres, on a des nouveaux indicateurs, on a des preuves, on a eu un développement conceptuel et théorique conséquent, mais malheureusement, ce n'est pas pris en compte par les critiques de ce paradigme.
Timothée Parix, justement, est-ce qu'il y a des pays qui se sont aventurés vers un nouvel indicateur que le PIB, précisément ? Est-ce que ça existe,
ça ? Alors, il y a le Bhoutan est sûrement le plus célèbre, avec le bonheur national brut, hein, un espèce de tableau de bord avec 33 indicateurs. Justement, je regardais pas plus tard qu'hier leur dernier rapport là, de 2024. Moi, j'aime bien leur catégorie parce qu'ils ne parlent pas de personnes en situation de pauvreté. Ils parlent de personnes qui ne sont pas encore heureuses. Donc, il y a les personnes très heureuses, déjà heureuses, moins heureux et les pas encore heureux.
C'est une belle perspective, en tout cas. Hein.
Et donc, avec leur indice pondéré, donc avec 33 indicateurs, ils essaient justement de se dire quelle politique publique on pourrait mettre en place pour faire sortir ces personnes du malheur, se rehausser au-dessus du seuil. Il y a la Nouvelle-Zélande, hein, qui depuis 2019 a des budgets bien-être. Donc là, c'est un tableau d'or avec 65 indicateurs, qui a aussi sa spécificité, parce qu'il prend en compte le bien-être présent
et futur. En Suisse, on a les 45 indicateurs, les mesures du bien-être que le gouvernement suisse vient de décommissionner d'ailleurs, donc il faut en profiter pour
mais
que ça
dure.
Mais le
PIB n'a plus de valeur pour la Suisse ?
Alors, pas du tout. Je pense que ça, c'est plutôt des indicateurs qui se sont développés en parallèle, ouais. mais qui sont restés étouffés. C'est-à-dire qu'ils existaient. Pour nous, les chercheurs, c'est fondamental parce que ça nous permet de faire des calculs. Mais au niveau des discours politiques, quand on vote un budget... Personne va dire, bah regardez, j'ai fait des petits calculs, comment ça va maximiser ou minimiser les mesures du bien-être.
Donc la valeur cardinale reste le PIB quand même. Hein.
On est toujours, dans ce beau slogan de mai 68, on est amoureux du taux de croissance. Mmh. On a cette relation toxique, un petit peu, mon collègue historien Matthias Schmelzer parle de l'hégémonie de la croissance, et on n'arrive pas à en sortir, et tous les autres indicateurs, qu'ils soient sociaux, culturels, politiques, écologiques, paraissent périphérique par rapport à celui du PIB.
Timothée Parigue, vous qui avez publié cet ouvrage « Ralentir ou périr », si on aborde justement la phase de transition, au fond, aujourd'hui, entre le capitalisme, la croissance économique et un monde post-croissant, l'idée c'est ça, c'est vraiment de mettre le pied sur le frein hein ?
Ah oui, complètement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de mettre le pied sur le frein ? Il y a deux volets, celui de la production, et là, on peut même diviser celui de la production en renoncement productif, donc certains biens et services qu'on va arrêter de produire, et une redirection écologique pour des biens et services qu'on peut produire différemment. Ça, c'est sur le volet de la production, et pareil sur le volet de la consommation. Une déconsommation, donc arrêter de produire certains... On a parlé du bœuf, par exemple, donc ça, c'est arrêter d'en manger. Et aussi... une sobriété heureuse, Serge Latouche lui parlait d'une frugalité abondante, Kate Soper parle d'un hédonisme alternatif, on parle aussi de minimalisme, de se dire, d'essayer de consommer moins, de simplifier certains besoins sans forcément mettre à mal la qualité de vie.
Et d'avoir aussi du temps pour le faire. On va écouter la députée écologiste Sandrine Rousseau qui avait jeté un pavé dans la mare en 2022 en prenant le droit à la paresse et qui revenait d'ailleurs sur le sujet de ce débat en février dernier sur ses réseaux sociaux.
Alors quand j'ai parlé de droit à la paresse... La France entière s'est mise en position latérale de sécurité. Cette espèce d'interdiction du débat autour de ne rien faire ou de ne pas dépendre de la sphère marchande, de ne pas être productif, de ne pas être dans la productivité, a été complètement confisquée par une droite libérale qui a eu peur qu'on s'interroge sur le travail, sur les cadences au travail, sur la qualité du travail et sur le temps hors travail.
Timothée Parigue, cette question du temps de travail, elle est centrale aussi aujourd'hui dans le questionnement qu'on peut avoir d'un autre monde que le monde de la croissance et du capitalisme ?
Elle est fondamentale parce qu'aujourd'hui, si macroéconomiquement, on observe que plus on produit, plus on va venir faire pression sur les limites planétaires, ben on se rend compte que le productivisme, comme mentalité de production, elle nous dessert. Et donc, justement, l'une des solutions serait à prôner l'antiproductivisme. Mmh. Alors ça paraît tout de suite très barbare, mais qu'est-ce que c'est que l'antiproductivisme ? C'est venir privilégier des facteurs sociaux et écologiques plutôt que des facteurs économiques dans l'organisation de la production. Et donc, ça peut passer, oui, par travailler plus lentement, utiliser des technologies low-tech plutôt que des high-tech qui pollueraient beaucoup, et peut-être aussi accompagner la décroissance de certains secteurs avec une réduction du temps de travail qui viendrait libérer du temps libre qu'on pourrait assigner à d'autres tâches. Et d'ailleurs, dans les indicateurs, dans tous les tableaux de bord, on a parlé des budgets bien-être, du bonheur intérieur brut, il y a des indicateurs qu'on appelle des budgets temporels de notre relation au temps. Ce qu'on observe dans nos sociétés développées, c'est qu'on n'a pas assez de temps pour faire les choses dont on a besoin.
Et pas consommer forcément ou produire. Hein.
Mais non, c'est ça. Là aussi, la corrélation à partir d'un certain seuil qui en France, selon la dernière étude que j'ai vue, est fixée à 30 000 euros par an. À partir de ce seuil, ce qu'on appelle le point d'Esterline, c'est le seuil où la qualité de vie, le bonheur, devient décorrélé des revenus. Mmh. Seuil à partir duquel on peut augmenter son revenu, ça ne fait plus augmenter la qualité de vie, on a atteint ce qu'on appelle un taux de satiété. Et donc là, on pourrait se dire, à partir du moment où on est là, ça ne sert à rien de continuer à produire et consommer plus. Justement, à partir de là, il faut se focaliser sur améliorer l'efficience de la production, mais non pas pour produire plus, mais justement pour travailler moins. Et quand je dis travailler moins, c'est travailler moins chez les humains, mais aussi permettre à la nature de travailler moins pour nous, c'est-à-dire de faire baisser les pressions sur l'environnement.
Timothée Parigue, notre invité dans la Terre au Carré pour ce dernier épisode de notre série sur le capitalisme. À tout de suite avec les messages et les témoignages pour vous.
Mathieu Vidard, la Terre au Carré.
La décroissance a commencé si vous regardez des éléments strictement physiques et même des éléments monétaires. Si vous regardez la quantité de mètres carrés construits dans l'année, le maximum en Europe était en 2007. Depuis, on descend, en tendance. Il se trouve que 2007 était également le maximum de l'approvisionnement énergétique européen. Si vous regardez la quantité de tonnes chargées dans les camions, ça c'est strictement physique, ça descend depuis 2007. Et je vais finir juste avec un dernier indicateur qui est monétaire, celui-là, parce qu'il y a quand même un domaine dans lequel aussi monétairement, là, ça se met à décroître, c'est le revenu disponible des ménages. Le revenu disponible des ménages a commencé à décroître, alors très lentement aujourd'hui, hein, depuis 2010. Donc, pour moi, il y a déjà plus de croissance.
C'est la voix de Jean-Marc Jancovici sur le média Vaquita en avril dernier. Timothée Paric, avec vous, on referme donc dans quelques minutes cette série sur le capitalisme. Est-ce que nous sommes déjà, effectivement, passés à autre chose? Le capitalisme est-il déjà en train de mourir sous nos yeux?
Alors, le capitalisme comme système, je pense, oui. Alors, ce qu'on observe, ce qu'on appelle la stagnation séculaire, c'est un ralentissement des taux de croissance, donc les... C'est commun, tous les pays à haut revenu, la croissance s'essouffle. Et on ne sait pas tellement pourquoi. La croissance s'essouffle, et bien sûr, je pense que la production et consommation concrète, on l'a vu du niveau de la consommation, on fait face à des taux de satiété qui font que le consumérisme, lui aussi, peut s'essouffler sur le long terme. Ça devient de plus en plus difficile de consommer toujours exponentiellement plus. Et du côté de la production, bah, on fait face quand même à certaines pénuries et à des limites écosystémiques, et aussi à des limites en termes de ressources naturelles, les burn-out, l'accessibilité du travail, qui font que je pense que ça sera, c'est impossible de continuer à maintenir un rythme de production pareil. Par contre, ce qu'on n'a pas du tout changé, c'est le logiciel de fonctionnement économique. Moi, j'aime beaucoup John Quiggin, un économiste qui nous dit en fait le capitalisme est devenu un système zombie. C'est-à-dire, il est mort, mais il continue de vivre parmi nous. Et là, on se retrouve en fait avec la carcasse d'un système économique en putréfaction, plus tellement utile, et on aimerait bien s'en débarrasser pour pouvoir avoir un système qui soit plus à même de faire ce qu'une économie devrait faire, donc satisfaire les besoins de tous sans dépassement des limites planétaires.
Mais il est encore coriace, hein, ce système.
Ah, il se défend, comme dans les films de zombies, hein, ça mord.
Timothée Paric, la question démocratique, elle est centrale, s'agissant précisément des politiques de transition écologique. Plusieurs exemples l'ont illustré ces dernières années, les Gilets jaunes en particulier, quand il y a eu évidemment ces revendications suite à l'augmentation de la taxe carbone sur les carburants. Capitalisme et démocratie, c'est compatible ou pas?
Alors moi je dirais non, et je vais renvoyer la balle à des
collègues. C'est choquant de l'entendre dire, parce qu'on vit quand même en démocratie là.
Alors moi je vais renvoyer la balle à Julia Cagé, qui depuis des années a très bien démontré quand même que les inégalités de richesse peuvent mener à une capture de pouvoir par une minorité possédante. Ça peut être le rachat de certains médias, qui peuvent ensuite être utilisés pour véhiculer une certaine idéologie qui peut défendre les intérêts matériels de cette minorité possédante. Ça peut être aussi à travers le financement des campagnes, et ça, Julia Cagé l'avait très bien montré. Et donc, vu que le capitalisme, c'est un système qui permet à la minorité possédante d'approprier le surplus de production, et donc un système, et ça c'est Thomas Piketty qui l'a très bien montré, qui, dans son fonctionnement organique et naturel, va avoir tendance à augmenter les inégalités, et bien là, on a en fait le capitalisme est un système qui, à terme, ferait disparaître la démocratie s'il n'y avait pas des contre-pouvoirs. Et la question de se poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, les contre-pouvoirs sont assez puissants pour faire face au courant du capitalisme? Et la réponse, j'ai l'impression, défendue en tout cas par Thomas Piketty, Julia Cagé et d'autres, est non.
Le système est intrinsèquement antidémocratique. Isabelle Ferreras, qui est maître de recherche du Fonds national de la recherche scientifique, écrivait en 2019 que la contradiction entre capitalisme et démocratie avait atteint un point de non-retour. C'est exactement ce que vous nous dites là?
Alors oui, et quand on regarde la concentration des richesses en France, et richesses, il ne faut pas seulement penser l'argent que vous avez sur votre compte en banque. Bien sûr, il y a des richesses financières, il y a des richesses immobilières, mais il y a aussi la propriété des entreprises. Et bien, c'est excessivement concentré. Et ça veut dire quoi posséder une entreprise? Ça veut dire avoir le dernier mot sur des décisions fondamentales. Qu'est-ce qu'on produit? Comment est-ce qu'on le produit? Et en quelle quantité? Et donc aujourd'hui, on voit bien que si l'on se rend compte qu'on a besoin de moins produire certaines choses, par exemple, si on a besoin de moins extraire de pétrole, mais que les sociétés pétrolières sont possédées par une minorité possédante qui n'investit que pour maximiser leur retour sur investissement, on voit pas que c'est plus une démocratie. En fait, c'est plus proche d'un jeu de monopoly. Et on a, bien sûr, une démocratie après coup où on va essayer peut-être de les réguler, qui n'a pas marché jusqu'à aujourd'hui, vu qu'aujourd'hui, on a marqué justement le décès de l'objectif du réchauffement de 1,5 degré.
Ouais, on en parlera tout à l'heure, d'ailleurs, dans la chronique média.
Déjà dépassé.
Timothée Paric, la décroissance est souvent qualifiée d'utopie, regardée comme une espèce de lubie d'intello hors sol. Pourtant, il existe un modèle économique réel qui est prospère, selon vous d'ailleurs. Vous l'avez écrit dans Socialterre, il y a quelques mois de cela, dans l'ombre du capitalisme. C'est l'économie sociale et solidaire. On peut en parler un instant, s'arrêter là-dessus. là-dessus parce que c'est un exemple concret de ce que pourrait être pour une société justement la post-croissance. En quoi ça consiste et en quoi c'est une alternative justement au capitalisme, ce modèle économique d'économie sociale et solidaire ?
Alors on va commencer. Le capitalisme, c'est un mode d'organisation économique qui est basé sur plusieurs caractéristiques, notamment la propriété privée des moyens de production, donc qui permet de concentrer la prise de décision, l'appropriation individuelle du profit, on en a parlé aussi, la coordination marchande, donc à travers les marchés, et aussi l'organisation du travail selon un mode salarial. On va prendre juste ces quatre caractéristiques et montrer qu'aujourd'hui, l'ESS en France a développé en fait des alternatives concrètes. Donc par exemple...
Donc l'économie sociale et solidaire.
L'économie sociale et solidaire, les SIC, qui est un mode d'entreprise, les sociétés coopératives d'intérêt collectif, sont des entreprises à lucrativité limitée ou à but non lucratif. Donc là, on perd une molécule capitaliste avec, par exemple, une appropriation donc, qui peut être sociale du profit à travers une fondation, un réinvestissement. On voit aussi à travers la création, par exemple, des territoires zéro chômeur de longue durée, donc une forme de garantie de l'emploi qu'on échappe un petit peu à l'organisation salariale du travail pour créer en fait un commun d'activités qui ne dépendrait pas d'un marché du travail. Donc ça, c'est, on perd une deuxième molécule. Il y avait une autre molécule aussi peut-être avec les monnaies locales, d'avoir un système financier et monétaire local qui permette d'échapper un petit peu aussi au marché de la monnaie capitaliste. Et moi, ce que j'observe aujourd'hui, c'est que dans les initiatives de l'économie sociale et solidaire aujourd'hui en France, qui sont certes minoritaires en expansion, mais quand même minoritaires, on a à peu près toutes les pièces disponibles pour construire un système qui pourrait faire face au système capitaliste.
Mais alors, arrêtons-nous par exemple aux entreprises qui sont la plupart privées d'ailleurs en France. Est-ce que ce que vous citez, c'est-à-dire effectivement un investissement collectif, coopératif, est-ce qu'on peut l'adapter à toutes les entreprises ?
J'ai du mal à imaginer une entreprise qui ne pourrait pas fonctionner comme ça. Si on divise déjà les entreprises en deux catégories, publiques, privées, donc je pense qu'il y a des entreprises qui sont difficilement privatisables. Mais quand on regarde dans la sphère du privé, toutes les entreprises qui sont privées aujourd'hui pourraient devenir sociales, fonctionner exactement de la même manière. Il y a un changement qui est absolument fondamental. Ma collègue Jennifer Hinton, elle appelle ça la relation au profit. La différence, en fait, la seule différence, c'est quand vous avez une entreprise avec un régime de propriété sociale, c'est que le profit, il n'est pas individualisable. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que derrière, vu qu'il n'y a personne qui peut approprier individuellement le profit, bah, y a moins d'incitation à faire une lucrativité de court terme qui pourrait dégrader soit les conditions de travail, soit les conditions des écosystèmes.
Timothée Parik, un dernier mot avant de passer aux questions. Dans un TEDx récent, le 30 avril dernier, vous lanciez un appel au sabotage. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que vous entendez par là ? À quelle sorte de sabotage vous faites appel pour lutter contre le capitalisme et proposer justement un projet de société différent ? Le mot fait peur.
Le mot fait peur. Aujourd'hui, je pense qu'on a besoin quand même de mots un petit peu douche froide pour se réveiller. La décroissance,
comme la décroissance
dans les années 2000. Et aujourd'hui, parce qu'on a ce discours un petit peu de l'innovation, comme quoi il faut résoudre le problème par l'addition. Alors que moi, je pense qu'il faut le résoudre par la soustraction. Pas par l'innovation, mais par l'exnovation. Il faut arrêter de faire ces choses qui dégradent, par exemple, les écosystèmes. Donc, sabotage, moi j'explique, c'est pas forcément
C'est un sabotage intellectuel plus qu'un sabotage physique ou
C'est un sabotage coordonné, d'une certaine manière. De se dire, par exemple, moi, si je suis communicant et je fais du marketing pour une entreprise d'extraction pétrolière et que je me rends compte que c'est complètement une inadéquation avec les valeurs et le futur dans lequel je vais vivre, je vais me rediriger vers quelque chose d'autre. Je vais cesser de donner mes heures à une entreprise et à un système qui détruit le monde.
Ça c'est pour moi, c'est une forme de sabotage pour vous. Ouais. D'accord. Donc c'est pas mettre une bombe sous un pipeline.
C'est pas mettre une bombe sur un pipeline. Je pense qu'il faut aujourd'hui conceptualiser toutes ces notions d'arrêter de faire le capitalisme.
Allez, on passe aux questions. Beaucoup de questions, malheureusement on a peu de temps devant nous, donc réponse courte, Timothée Parik s'il vous plaît. Alain nous dit, la croissance n'est-elle pas la première cause du dérèglement climatique, des inégalités sociales, des conflits, des guerres ? La décroissance n'est-elle pas la première solution pour pallier ces fléaux ?
Première solution, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qu'on a l'air d'observer aujourd'hui, à travers la science sur la décroissance, c'est qu'on n'y arrivera pas sans réduire la production et la consommation. Donc ce n'est pas une condition suffisante, mais en tout cas c'est une condition nécessaire.
Gilles demande, comment une entreprise peut-elle vendre de moins en moins sans faire faillite ?
Alors ça, si c'est une entreprise qui en fait crée plus de coûts que de bénéfices, par exemple une entreprise pétrolière qui va vendre le pétrole, donc bénéfices financiers, mais qui va générer énormément de coûts climatiques, en fait déjà, elle est déjà en faillite.
C'est juste qu'elle a l'illusion statistique de la lucrativité à travers le logiciel capitaliste. Mais si on venait changer son modèle de comptabilité, on se rendrait compte qu'elle est déjà en faillite.
Olivier nous dit une révolution agroécologique, un grand retour à la paysannerie avec des techniques agricoles modernes sans chimie ne serait-elle pas une façon d'axer un changement de système en douceur ?
Oui, je suis complètement d'accord. On n'a pas à choisir entre soit un passé idéalisé ou soit le présent avec toutes les technologies qu'on voudrait. Aujourd'hui, il faut se dire, on a des budgets biophysiques limités, il va falloir choisir quelle technologie on veut. On peut garder le meilleur de la modernité et aussi faire revenir certaines technologies et pratiques anciennes qui pourraient être plus adaptées à un monde, par exemple, sans pétrole.
Catherine demande, pourquoi ne pas créer un parti politique qui montre vraiment le chemin alors ? Le parti décroissant, par exemple. Je ne sais pas si ce serait très populaire, mais...
Je ne sais pas si la décroissance est le bon terme pour ça. Moi, je préfère des termes comme l'économie du bien-être, le convivialisme. Tout ça, c'est des termes, je pense, qui rassemblent plus. La décroissance, c'est quand même un terme assez académique et c'est peut-être
mais,
bien
mais
que ça
Mais ça peut s'incarner dans un parti politique aussi l'idée du bien-être
L'idée du bien-être,
le parti
l'économie
du bien-être, bien-être
ou de la paresse pour tous, comme dans le roman d'Adrien Clent. Oui, je pense que ça pourrait rassembler.
Et puis enfin, l'indice de croissance ne veut plus rien dire tant les choses ont changé. Qu'en pensez-vous, dit Jean-Bernard, pour terminer.
Oui, et c'est une opinion aussi des économistes. On se rend compte que le PIB tel qu'il a été inventé dans les années 1930, il a beaucoup de mal aujourd'hui à refléter l'évolution de la qualité, notamment des nouvelles technologies et encore plus de l'état de santé des écosystèmes.
Merci beaucoup Timothée Paris. Je renvoie sur votre livre « Ralentir ou périr, l'économie de la décroissance ». C'est aux éditions du Seuil. Et puis bien sûr sur notre série « Capitalisme, une histoire de la Terre » qui se termine aujourd'hui. Imaginez avec Lucie Sarfati depuis la rentrée cet épisode que vous pouvez retrouver en podcast dès maintenant sur l'application Radio France. Merci Timothée Paris de conclure avec nous.